Actu SF, les podcasts.
Bienvenue à cette table ronde qui s'appelle Animal Farm. Nous allons parler des animaux. Je vous présente mes intervenants. Donc Licam, qui est auteur, éditrice et coach en créativité. Mélandoris, qui est aussi romancière et scénariste, et qui a une formation de biologie et qui est aussi prof de SVT, donc ça tombe bien. Tout à fait là-bas à gauche, François Moutou, qui est docteur vétérinaire, épidémiologiste, et très engagé dans la défense des animaux sauvages. Voilà, vous allez nous expliquer votre engagement. Et Stéphane Ingrand, qui est chercheur à l'INRA et qui travaille essentiellement sur les animaux d'élevage. Et vous allez nous expliquer aussi tout à l'heure exactement en quoi ça consiste. Pour en introduction de cette table ronde, je ne sais pas si vous avez lu la présentation qui était donnée dans le programme des Utopiales. On parlait de Laika, qui est la première être vivant terrien à être allé dans l'espace et qui mourut 5 heures après le lancement du satellite. Alors moi, pour démarrer, je voudrais juste rappeler qu'il y a aussi un animal français qui est allé dans l'espace. Enfin, le premier animal français qui est allé dans l'espace, c'était une petite chatte qui s'appelait Félicette. Elle est allée dans l'espace le 18 octobre 1963. Et elle est revenue. Voilà. En revanche, on l'a euthanasiée 3 mois après parce qu'on lui avait implanté des électrodes dans le cerveau et il fallait récupérer les données. Donc voilà. J'ai trouvé bien qu'elle revienne, puis après on l'a euthanasiée. Donc bon, ok. C'est un petit peu la même histoire, quoi. Voilà. Pour commencer, je voudrais peut-être, François Moutou, que vous nous rappeliez les différentes définitions, les catégories d'animaux. Vous expliquez ça en introduction de votre dernier ouvrage « Et si on pensait aux animaux ?» Et j'aimerais que, comme ça, ça va poser le débat clairement sur les différentes catégories d'animaux.
Alors, si on veut faire, juste pour commencer, pour vous détendre un peu, bon, en gros, il y a les gentils et les sales bêtes. C'est une façon de voir le monde. On peut dire aussi qu'il y a les comestibles et les pas comestibles. C'est une autre façon de voir le monde. Alors, il y a d'autres façons également. Il y a des façons plus scientifiques qui reposent sur l'appréhension que nous avons nous-mêmes de cette diversité. Et simplement, si on pense à l'esprit de cette table ronde, on peut imaginer les animaux qui sont sans relation particulière avec notre espèce, que nous appelons les animaux sauvages. Et il y a une catégorie très particulière qui s'appelle les animaux domestiques. Et au sein de ces animaux domestiques, qui sont des animaux qui ont été créés par nous à partir de quelques espèces sauvages. Et pensez qu'en général, ce n'est pas très bon pour l'espèce sauvage de source. On a exterminé l'ancêtre de tous les bovins. On ne connaît pas vraiment l'ancêtre des chevaux domestiques. On ne connaît pas le dromadaire sauvage. Enfin, en général, la domestication, ça concerne peu d'espèces. Et ce n'est pas du tout une forme de conservation de la source sauvage. Et donc, simplement, il y a 2 catégories au sein de ces animaux domestiques. Ceux qu'on élève pour les services, alors qu'ils nous donnent, le mot donné peut être discutable et discuté. On n'est pas convaincu que les vaches donnent le lait spontanément pour qu'on fasse des fromages ou des yaourts. Et on n'est pas du tout convaincu qu'elles donnent leur veau gentiment pour les escalopes. On est tout à fait d'accord que l'expression donnée est un point de vue tout à fait anthropomorphique et sans doute pas forcément partagé. Et puis, vous avez les animaux de compagnie que nous élevons pour leur présence, pour le compagnonnage, c'est exactement le sens du terme. Et là-dedans, depuis sans doute très longtemps, mais là ça prend une tournure un peu différente, on inclut des animaux non domestiques qui deviennent des animaux de compagnie exotiques et qu'on prélève dans la nature, que parfois on élève dans des centres de reproduction. Et le paradoxe, c'est de dire « j'aime les animaux, la preuve, chez moi j'ai un iguane ou j'ai un perroquet d'Amérique du Sud ». Si ça se traduit par la mort de dizaines d'individus sur le chemin entre la forêt d'Amérique et mon appartement, c'est une forme d'aimer qui tue beaucoup quand même, qui fait des dégâts. Donc il y a des façons d'aimer les animaux qui sont paradoxales par rapport à l'impact que ça peut avoir sur les animaux. Donc voilà, c'est ce petit panorama que je pourrais vous proposer pour commencer.
Licam, il me semble que vous intéressez au statut juridique des animaux, au droit des animaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, en tant qu'auteur de science-fiction, je m'intéresse effectivement à la place de l'animal dans nos sociétés et à la place de l'animal dans nos sociétés demain, avec un questionnement effectivement sur le statut juridique de l'animal. Au jour d'aujourd'hui, il est toujours considéré comme un meuble.
Oui, j'ai appris ça, oui.
Ah. C'est en train de changer.
Je ne sais plus si c'est dans votre ouvrage, oui, François, que j'ai changé. J'ai vu que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent. Les animaux sont soumis au régime des biens.
Voilà.
Donc, alors est-ce que c'est des meubles ou des... Enfin, voilà, j'ai appris que mon chien était un objet, quoi, que c'était quelque chose qui m'appartenait, en fait.
En fait, dans le droit français, vous avez des codes. Le code rural, le code de l'environnement, le code civil. Et dans chacun de ces codes, l'animal est différent. Il n'y a pas d'harmonie entre les codes. Si je prends simplement le code rural, les animaux sont êtres sensibles. Dans le code de l'environnement, ils ne sont pas êtres sensibles. Donc, vous êtes éleveur de faisans, là. Vous avez une ferme de faisans, vous les élevez, donc vous êtes agriculteur, et vous êtes code rural, vos faisans sont sensibles. Vous les lâchez le jour où il faut les lâcher pour les libérer dans la nature, pour la chasse qui va suivre, ils passent sous le code de l'environnement, et les mêmes individus faisans ne sont plus êtres sensibles. Expliquez-moi comment c'est possible. Dans le droit français, c'est ce qui se passe. Et le code civil est arrivé par derrière. Et en gros, le code civil gère l'achat et la vente des biens qui appartiennent à un propriétaire. Et vous avez deux types de biens, les mobiles et les immobiles. Les meubles et les immeubles. Les animaux sont mobiles. Et donc, dans le code civil, on disait les animaux sont des meubles. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil qu'une chaise ou une table. C'est dans le code civil la distinction entre ce qui est mobile et ce qui ne l'est pas. Et le code civil, depuis 2015... a changé une catégorie pour les animaux pour être effectivement non plus des meubles, le terme étant parfois mal compris, mais des êtres reconnus avec une sensibilité. Mais globalement, ça ne change pas grand-chose pour les affaires commerciales.
Le fait qu'ils soient des biens, c'est aussi une raison de responsabilité, j'imagine. Si, oui.
C'est pour l'animal chien... domestique qui est votre propriété.
Oui, voilà. Ouais.
Ça ne concerne pas du tout l'animal sauvage qui vit tout seul dans son coin.
Oui, c'est dans sa relation à l'homme et dans le fait que l'homme est responsable des dégâts que pourrait faire l'animal, comme il est responsable, on pourrait dire, du bien-être ou du mal-être de l'animal.
Mélanie, alors vous, on va passer à la fiction, là, parce que vous travaillez sur les animaux. Il y a, dans votre œuvre, il y a des hybrides, il y a des animaux anthropomorphes. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette thématique? Pourquoi vous avez fait des pandas qui sont des blaireaux qui sont des gardiens, les pandas, c'est des tigres qui sont les chefs, voilà. Et pourquoi vous avez fait un petit chat qui vole, voilà. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans l'imagerie que ça véhicule, et peut-être aussi de façon métaphorique après.
Moi, je me suis jamais posé la question de la distinction entre l'homme et l'animal, parce que l'homme est un animal. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai étendu à la limite en fiction, puisque j'ai le droit de le faire, la conscience humaine à l'animal, et je me suis permis d'aller voir comment ça se passerait si on se retrouvait avec des animaux doués de parole. Et en fait, il se passe cette chose assez merveilleuse quand on lit une œuvre de fiction où il y a des animaux doués de parole et de conscience, c'est qu'à partir du moment où on a des animaux doués de parole et de conscience, ce sont des personnes. Il n'y a plus de questions à se poser de savoir est-ce qu'il a des poils, est-ce qu'il a une moustache, est-ce que... Voilà. Mais à partir du moment où on fait parler les animaux, ils sont considérés par les lecteurs comme des personnes.
Est-ce que ce n'est pas une erreur de vouloir anthropomorphiser des animaux, de leur donner des caractéristiques humaines, peut-être? Est-ce qu'il n'y a pas un piège, là?
Dans le cas de Typhon, donc, qui est mon chat hybride conçu en laboratoire, il n'est pas anthropomorphisé du tout. Les seules caractéristiques humaines qu'il a sont des caractéristiques qui sont forcément induites par son environnement. Il est le seul de son espèce. Je ne suis même pas sûre qu'on puisse parler d'espèce. Et donc, les seules personnes avec qui il interagit, c'est les humains. Et donc, il s'accapare nos modes de raisonnement, nos modes de fonctionnement, nos façons assez roublardes de discuter et d'argumenter. Et comme c'est un chat, il y arrive très bien. Voilà. Ils sont quand même doués pour ça, il faut le dire, même sans la parole. L'anthropomorphisme des animaux dans le monde d'Evernight, en fait, étant donné que le monde d'Evernight est façonné par la pensée des gens qui y arrivent, il était normal que mes animaux s'anthropomorphisent parce qu'en fait, les rêveurs étant des humains de base, c'est une espèce d'évolution logique de leur statut. Mais si on réfléchit à plus grande échelle, à partir du moment où on veut que les personnes aient du respect et conscience de l'importance d'un individu qui n'appartient pas à son espace. En tout cas, l'homme fonctionne beaucoup comme ça. Pour considérer quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas de son espèce, il va falloir faire un anthropomorphisme. Ça se voit très fort dans les films de science-fiction où il y a des aliens. Voilà, c'est-à-dire à part Abyss, qui a réussi, et encore. Mais voilà, on a beaucoup d'aliens qui vont se retrouver avec des caractéristiques humanoïdes, en fait. C'est-à-dire une tête, deux bras, deux jambes, et puis généralement, ils sont bipèdes. Voilà. Donc, pourquoi ? Pour que le spectateur, le lecteur, la personne en face les considère comme des personnes à part entière. Donc, c'est aussi une espèce de nécessité sous-jacente. Après, ça reste un moyen pour arriver à la fin. C'est-à-dire que c'est un moyen comme un autre pour essayer de faire considérer l'alien ou l'animal comme une personne.
Il y a un peu ça dans votre voix, je pense à Moutou. À un moment, vous expliquez que les chercheurs qui étudient des animaux sauvages, au lieu de leur donner des numéros, leur donnent des prénoms, et tout à coup, ça devient des individus, en fait. Ça change totalement la perception qu'on a d'eux.
Cette fameuse question de la conscience, ou pas du tout, chez l'animal, chez d'autres. En plus, animal au singulier, c'est malhonnête, c'est inexact. Nous sommes plusieurs millions d'espèces. On en connaît d'ailleurs peut-être qu'un petit pourcentage, même si beaucoup sont des invertébrés, des insectes, donc sont pas des... Souvent, en français, animal veut dire mammifère. C'est une erreur. C'est grave parce qu'on associe, nous aussi avec, mais la diversité est beaucoup plus grande que ça. Et donc la notion de conscience part du fait que l'homme considère qu'il est vraiment différent des autres et que forcément il y a une barrière quelque part qui fait qu'il est protégé peut-être des autres. Et en fait, quand on cherche ce qui est le propre de l'homme, en disant c'est l'usage de l'outil, c'est la communication, c'est le langage, non. Il y a des quantités d'espèces qui savent manipuler des outils, qui savent communiquer, qui savent échanger. Il y en a qui font des choses bien mieux que nous. Au niveau des sens, on est visuel, mais au niveau nez, on est nul. Au niveau oreille, on n'est pas terrible. Les gammes dans lesquelles on perçoit, c'est une petite partie de ce que d'autres espèces perçoivent. Donc, ça n'a rien à voir. Mais chaque espèce est particulière. Toujours comparé à l'humain, ce n'est pas toujours une bonne idée. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut accepter que nous, on est humains, et il ne faut ni anthropiser les animaux, ni animaliser l'homme. Il faut chacun reste à sa place, et ça sera pas si mal. Et donc, cette notion de conscience, il y a des quantités de gens qui ont cherché à savoir si les chiens, les animaux sauvages, différentes espèces avaient ou pas de la conscience. Et c'est intéressant de lire les protocoles, et parfois on a l'impression que le but de l'équipe, c'était de démontrer que les animaux n'avaient pas de conscience. Parce que quand on voit les manips dans lesquels on les conditionne, dans des environnements artificiels, de laboratoires, on leur met un ordinateur devant le nez, devant les pattes, ils doivent appuyer sur un bouton pour déclencher quelque chose. Mais imaginez, vous faites ça avec certains humains contemporains, un machin comme ça, il y en a qui ont vécu sans très bien, et ils n'ont aucune idée de ce à quoi ça peut servir. Et ils ont une conscience comme vous et moi, puisqu'ils sont nous et moi. Et donc, il y a une certaine malhonnêteté parfois pour prouver que certains animaux sont vraiment différents de nous. Non, mais je pense que beaucoup de choses, tout ce qui existe, ou une grande partie de ce qui existe chez l'homme, doit exister chez certaines espèces sous une forme un peu différente, peut-être primitive, peut-être partielle. Et simplement, l'espèce humaine l'a développée dans un environnement qui est le sien. Mais il n'y a aucune raison de mettre des frontières absolues étanches entre nous et le reste du monde vivant.
Moi, je fais souvent le parallèle avec les tout petits humains, les bébés, jusqu'à l'âge de 8-9 mois. Ce qui nous permet de communiquer, c'est le système limbique, le système des émotions. Et on a tous des animaux domestiques et on se rend tous compte qu'il y a une capacité à communiquer par ce biais. On est sur un ressenti. On ne parle pas de conscience. Un nouveau-né n'a pas vraiment conscience d'exister. Par contre, on a quand même un questionnement sur la capacité à souffrir de l'animal, sur sa capacité à l'anxiété. Ce qu'on peut tous constater quand on a des animaux domestiques ou même quand on vit dans une ferme, on voit bien qu'il y a une capacité à stresser l'animal. Et on va très loin. Moi, j'ai fait de la biologie, j'ai travaillé en virologie, en bactériologie. On peut stresser des bactéries par l'environnement. Donc, il y a toutes ces questions. Je m'intéresse, moi, particulièrement pour la science-fiction, à ces questions, parce que la place de l'animal, si on lui reconnaît une émotivité, elle va être amenée à changer dans la société. Parallèlement, en cybernétique, on fait des recherches pour remplacer les animaux, c'est-à-dire qu'on a maintenant des robots qui ressemblent à des animaux, qui nous permettent de transporter des éléments. On a des chiens, des ânes.
On met des prothèses à des animaux pour leur.
On met des prothèses à des animaux. Donc là, on est sur une autre acception. Et on se pose la question, est-ce que les animaux qui nous servaient jusqu'à maintenant pour du labor, pour du travail, seront remplacés plus tard par des machines?
J'ai vu qu'il y a l'armée américaine qui implante des mini-prothèses, enfin des je sais plus comment on dit,
des implants,
ouais, merci, dans des petits insectes pour leur les télécommander, en fait, leur dire tu vas à droite, tu vois, comment télécommander la souris autrefois de l'ordinateur, ben on télécommande des vrais insectes, c'est assez fou, quoi, on transforme en machine, quoi.
Et moi qui m'intéresse aussi beaucoup sur l'homme augmenté, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas augmenter l'animal.
Justement, on parlait de conscience, Stéphane Ingrand. Comment, quand on travaille sur l'élevage ou quand on est éleveur, j'imagine que vous connaissez des éleveurs et vous savez quelles sont leurs relations avec leurs animaux. Est-ce qu'eux ont conscience de la conscience de l'animal? Comment ils travaillent avec leurs animaux par rapport à ça?
Alors moi, je vais être l'affreux chercheur qui maltraite les animaux, peut-être. Non, je voulais dire, effectivement, donc, le code rural, cette histoire d'être sensible, je pense que c'est 5 ans, c'est très récent. Le fait que l'animal qualifié comme être sensible soit écrit dans le code rural. Donc à l'INRA, nous travaillons sur les espèces dites d'élevage, donc hors animaux de compagnie. Et il y a des recherches qui sont à finalité agronomique, donc stricto sensu pour l'élevage, mais il y a aussi des recherches qui sont à finalité non agronomique, et les plus connues sont celles à finalité biomédicale. Donc nous sommes experts pour élever des animaux, dont les médecins, les chirurgiens, que les médecins chirurgiens vont utiliser comme modèle pour faire leurs études. Nous travaillons sur les émotions chez les animaux. Nous avons sélectionné des cailles, par exemple, ça s'appelle la sélection divergente. Donc de génération en génération, on trie les animaux qui sont très émotifs et ceux qui sont le moins, et on arrive à les faire diverger. Et ça sert dans nos études pour faire des modèles, pour montrer des choses justement sur comment élever les animaux, les relations entre l'éleveur et ses animaux. Il y a un ouvrage qui vient de sortir, que je vous recommande d'acheter si vous êtes intéressé, qui s'appelle « La conscience des animaux ». Donc, on arrive à montrer, par exemple, chez certains animaux qu'ils ont conscience de leur capacité intellectuelle, c'est-à-dire qu'on peut leur faire faire des exercices simples, et si on complexifie l'exercice avec une récompense associée, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, quand l'exercice devient trop compliqué, l'animal abdique. L'animal décide de ne plus répondre et c'est interprété comme finalement une difficulté qui dépasse sa capacité cognitive à répondre à l'exercice pour avoir la récompense. Ou alors, encore plus fort, il va appuyer sur un bouton qui donne une récompense moins élevée que s'il a la réponse juste. Et donc, on peut arriver à faire répondre des animaux comme ça, à les faire appuyer sur le bouton qui, OK, je ne connais pas la réponse, mais je sais que je vais avoir une récompense plus faible. Après, relation homme-animal, c'était la question. Il y a beaucoup de travaux qui concernent les relations homme-animal. Alors, il faut diviser peut-être les systèmes d'élevage en 2 catégories. Ceux qui concernent les ruminants, où les animaux vont dehors, et les monogastriques, qui sont ceux qui ne consomment pas l'herbe, comme les porcs, les chevaux, c'est un peu marginal en élevage, mais les volailles, où les conditions d'élevage sont quand même plus, on va dire, plus intensives, plus industrielles, et où là, il y a des recherches qui sont faites pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie, même si leur vie est courte. Bon, leur vie est relativement courte par rapport à l'espérance de vie d'un animal. Un animal d'élevage, il reste quelques mois dans l'élevage entre sa naissance et l'abattage. Donc il y a des études qui sont faites. Nous avons des sociologues à l'INRA ou des gens spécialisés sur le comportement et le bien-être qui étudient ne serait-ce que la façon de contenir les animaux, la contention, ça veut dire comment j'attrape une vache si je veux la soigner. Ça nécessite de connaître les comportements et la meilleure façon de les appréhender. y compris pour que ce ne soit pas dangereux pour l'animal, mais aussi pour que ce ne soit pas dangereux pour l'éleveur.
Donc vous, votre travail consiste à aider les éleveurs à trouver des moyens d'élever mieux, c'est ça ?
En fait, dans le département de recherche dont je m'occupe, il y a des recherches sur l'alimentation. Donc c'est améliorer l'efficience de l'alimentation, éviter, si possible, l'alimentation avec des aliments qui sont en compétition avec l'alimentation humaine, par exemple. C'est travailler sur la reproduction, c'est travailler sur le comportement et le bien-être. Donc il y a tous ces aspects-là. De plus en plus, on va vers des recherches qui sont dites participatives, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans nos labos complètement coupés du monde. Donc, on a des programmes de recherche qui se font avec les éleveurs eux-mêmes. Il y a beaucoup de travaux qui se basent sur des enquêtes dans les fermes pour essayer d'appréhender comment les éleveurs ressentent leur métier. On a des recherches qui sont conduites sur le travail en élevage, combien d'heures sont passées parce que la pénibilité du travail, c'est aussi une question très importante pour les éleveurs. Donc, élever mieux, ben, c'est une notion qui se discute, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, élever mieux ? Et je pense que, entre guillemets, le point de vue de l'animal, voilà, si on peut parler du point de vue de l'animal, et le point de vue de l'éleveur sont à prendre ensemble, et le point de vue du consommateur, vous, dans la salle, etc., le citoyen, de plus en plus, il influe sur nos travaux, sur ce qu'on peut faire, ne pas faire. On a des comités d'éthique. Il y a un comité d'éthique INRA-CIRAD qui prend en charge certains sujets. Par exemple, le dernier, c'était le génome editing. Le génome editing, bon, je ne sais pas si tout le monde connaît. Est-ce que on met ça dans le registre des OGM, des organismes génétiquement modifiés ? La conclusion était oui. Les animaux génome édités, donc les techniques CRISPR-Cas9, etc., enfin, où on peut aller mettre un gène au milieu du génotype d'un organisme sans que ça se voit, contrairement aux OGM. La question à l'échelle européenne, c'était est-ce que on met ça dans les OGM ou pas ? Et la réponse est oui. Donc ça induit des réglementations, des règles à respecter, des façons de travailler, des qui sont très, très précises. Bon, voilà.
Vous pouvez nous parler des 3 R ?
Ah, les 3 R ?
Oui.
Alors, il y a les 3 R qui sont les rencontres sur les recherches sur les ruminants, mais ce n'est pas ça. Les 3 R, c'est en fait expérimentation animale et science-fiction. Pour moi, ça veut dire... Alors, on en a discuté. Pour moi, ça voudrait dire on arrive à se passer des animaux dans l'expérimentation. Alors, les 3 R, c'est réduire, raffiner, remplacer. Donc, réduire, ça veut dire où il fallait 50 vaches pour faire un protocole. Peut-être qu'on peut, avec 30, réussir à avoir les résultats statistiquement significatifs. Bon, donc, ça, c'est réduire le nombre d'animaux qu'on va utiliser dans les protocoles expérimentaux. Raffiner, ça veut dire qu'on progresse sur les méthodes et qu'on peut peut-être avoir des méthodes moins invasives. Je pense à l'imagerie, par exemple. L'imagerie, c'est une piste vraiment très, très prometteuse pour nous pour éviter de, comme vous disiez, mettre des électrodes dans le cerveau du chat. Bon, maintenant, dans nos labos, nous avons des IRM, nous avons des scanners qui sont comme chez vous, mais dans votre hôpital quand vous allez passer un IRM, où on peut mettre des ovins, des porcins, et il y a une carte du cérébrale, une carte entière du cerveau des ovins qui a été faite à Tours en utilisant ce genre d'appareil. Et il y a les organoïdes. Alors les organoïdes, ce sont des modèles d'organes qui sont cultivés en laboratoire à partir de cellules souches. Ça veut dire qu'on arrive à créer, par exemple, un modèle d'intestin. Enfin, ce qui marche un peu le mieux en ce moment, c'est l'intestin. L'intestin, on arrive à le reproduire en 3 dimensions au labo, et ça nous permet de faire des manips sur des maladies, sur le fonctionnement de l'intestin, sans recourir aux animaux. On a aussi financé là c'est pas encore obtenu, mais c'est un pari, c'est d'essayer de reconstituer des tissus olfactifs, donc de l'odorat, avec des imprimantes 3D. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça, si ça marche, ça veut dire qu'on pourra finalement remplacer les animaux par autre chose. Donc il y a la modélisation, la simulation, les ordinateurs. Bon, ça marche bien les ordinateurs, mais ça ne fait pas encore un animal entier. Il y a l'imagerie, bon, c'est l'animal entier, mais c'est non invasif. Il y a les organoïdes, ce sont des modèles. Ça veut dire qu'on prend des modèles qui sont des modèles de l'animal. Bon, voilà, donc les pistes qu'on a un peu pour... Donc les trois R, c'est réduire, raffiner, remplacer, et c'est une règle qu'on a systématiquement. Dès qu'on a un protocole dans nos labos, il faut envoyer une demande d'autorisation de projet au ministère de la Recherche, et il faut démontrer qu'on applique la règle des trois R pour avoir l'autorisation de lancer le projet.
D'accord. Avant d'aller un petit peu dans le futur, revenons vers le passé, François, si vous voulez bien. J'ai découvert moi l'histoire des aurochs en fait en lisant votre livre, dont j'ignorais en fait que les vaches qu'on mangeait venaient des...
Alors en fait, si on revient un tout petit peu dans l'histoire, en fait on prolonge quelque chose qu'on a commencé nous espèce humaine il y a quelques millénaires en domestiquant. Et les questions qui sont toujours en suspens, qui sont pas complètement bien comprises, c'est pourquoi est-ce qu'on a domestiqué ces quelques espèces, disons qu'il y a une dizaine d'espèces importantes au niveau mondial et au niveau économique. Et pourquoi pas les autres? Or, on sait que nos ancêtres, à la fin des glaciations, mangeaient beaucoup plus d'espèces que les bovins, les moutons, les chèvres, les porcs et les poulets que nous avons aujourd'hui. Et sachant que d'ailleurs, tout ce qu'on a domestiqué qui est chez nous en France, dans nos basses-cours traditionnelles, n'a pas été domestiqué en Europe de l'Ouest. Tout a été domestiqué au Proche-Orient, pour ce qui nous concerne, donc dans la fameuse zone entre le fleuve Euphrate et le fleuve, comme il s'appelle, le Tigre, entre le Tigre et l'Euphrate, c'est là-bas qu'ont été domestiqués ces animaux. Et l'aurochs, c'est l'ancêtre de tous les bovins domestiques et qu'on a exterminé parce qu'à partir du moment où on avait nos animaux... D'ailleurs, la notion de faune sauvage, on peut supposer qu'elle n'existe que depuis qu'on a domestiqué. Avant la domestication, il y avait les autres, il y avait nous, et c'était peut-être pas très différent, comme dans certains peuples, les derniers cueilleurs-chasseurs qui existent encore aujourd'hui ont une façon de percevoir le monde vivant qui met à peu près la même spiritualité dans une plante, dans un animal et dans un humain. Et c'est peut-être quand on a domestiqué, c'est pas tellement une modification de technique qu'on a développée, mais une modification de la façon de percevoir le monde vivant. On s'est approprié certaines espèces qui sont devenues à nous, et du coup, le reste est devenu sauvage, par opposition. Et donc cette dichotomie, elle n'est pas forcément naturelle dans notre histoire, mais peut-être liée à la domestication. Et l'aurochs, donc le dernier connu, est mort au XVIIe siècle en Pologne. Et au milieu du XXe siècle, des biologistes allemands ont eu l'idée un peu originale, pour différentes raisons idéologiques, d'imaginer de reconstituer un aurochs en faisant la sélection inverse. Donc on sélectionne sur des caractères de production laitière, de production de viande. Ça, c'est pour l'Europe de l'Ouest. Il y a des pays d'Afrique qui sélectionnent les bovins sur la forme des cornes et la couleur du pelage. Ça, c'est possible aussi, pour des raisons qui sont les leurs et qui sont très respectables également. Et donc, l'idée, c'était de prendre des races les moins sélectionnées. Mais au milieu du XXe siècle, on est quand même 8000 ans après la domestication des bovins. Ça fait quand même du temps. Donc, c'était les animaux qui paraissaient en Europe de l'Ouest les moins sélectionnés. Avec quelques difficultés théoriques, c'est que les aurochs, on les connaît à Lascaux, mais il y a 30 000 ans, ce n'était pas ceux qu'on a domestiqués il y a 8 000 ans ou 9 000 ans, et que de fait, on n'a pas d'image de référence parfaite de l'aurochs d'origine dont on est parti pour faire les bovins. Et donc, on a reconstitué quelque chose à l'image de ce qu'on en avait dans l'esprit. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu plusieurs projets qui se sont succédés, y compris assez récemment, y compris avec des méthodes génétiques plus modernes. On a réussi à reséquencer à partir d'ossements subfossiles la séquence des génétiques de l'aurochs, qu'on a comparé aux bovins d'aujourd'hui. Et là, on a pu partir de races qui avaient moins de différences avec l'aurochs que certaines très sélectionnées. Et dans tous les cas, on arrive à des animaux qui se ressemblent et qui ressemblent à l'idée qu'on se faisait de ce qu'on voulait trouver. Alors, évidemment, quand on trouve un truc qui ressemble à ce qu'on cherchait, on est content. Mais est-ce que c'était vraiment ça? Je n'en sais rien. Donc, ce sont des animaux qui sont assez impressionnants. Les mâles sont plus gros que les femelles, sont plus sombres. Et ils ont vraiment des jolies cornes. Et on se dit que pour penser à domestiquer ça il y a 8000 ans, il fallait quand même être gonflé.
Passons à la SF maintenant. Alors, essayons d'envisager un peu le futur, noir ou blanc, on va voir. Il y a pas mal d'antispécistes en ce moment, de mouvements vegan et tout, qui prônent la fin de l'élevage. Et est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Est-ce que c'est réaliste pour vous qui êtes près de ça? Est-ce que...
Qui c'est qui doit répondre à ça?
Vous. Après, tout le monde peut répondre, mais j'aimerais avoir votre avis quand même.
Alors, je viens de lire, de finir un livre là, qu'on m'avait conseillé, qui s'appelle, comme je venais aux Utopiales, il s'appelle « Trois utopies contemporaines ». Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent dans la salle. Alors, l'auteur, c'est Francis Wolff, qui est au Collège de France. Et en fait, « Trois utopies contemporaines », alors il y a trois chapitres dans son bouquin qui est assez court. Donc, le premier, c'est l'utopie transhumaniste. Alors, en fait, il commence son bouquin en disant « Dans l'Antiquité, l'homme savait où se positionner. Au-dessus de lui, il y avait les dieux. En dessous de lui, il y avait les bêtes. Et lui, il était au milieu. Et en fait, son code de conduite, c'était pas avoir les chevilles qui enflaient trop pour se prendre pour un dieu et pas faire n'importe quoi pour être au rang de bête, alors, entre guillemets. Et il dit, aujourd'hui, il y a trois utopies par rapport à ça. Il y a les transhumanistes qui veulent aller là-haut chez les dieux et devenir immortels sans avoir de maladie, etc., etc. Le deuxième chapitre, c'est les abolitionnistes qui considèrent que toutes les espèces animales ont les mêmes droits, la même valeur, etc. Donc, il n'y a pas de raison que l'homme... parce que la domestication dont parlait mon collègue, c'est une forme de les animaux, ils ont perdu leur autonomie. Enfin, ils sont associés à nous très fortement. Si on lâchait les vaches laitières dans la nature aujourd'hui, ce serait une catastrophe. La vache laitière qui produit 7 à 8 tonnes de lait par an, elle est incapable de se débrouiller sans nous. Ça c'est très important. Il n'y a pas de souci. Si démocratiquement, éthiquement, philosophiquement, on décide plus élever d'animaux, la solution, ce ne sera pas de lâcher ce qu'on a dans la nature, ce sera d'attendre que les étables se vident, et il n'y en aura pas pour longtemps, parce que ça tourne vite. Mais pour moi, les animaux domestiques tels qu'on les connaît, ils disparaîtront, parce qu'on les a sélectionnés très fortement, et ils ne sont plus autonomes, enfin, au moins pour la plupart d'entre eux. Et puis, son troisième chapitre, c'est ce qui défend finalement le cosmopolitisme. Alors, c'est la notion de citoyen du monde, donc les êtres humains, la disparition des frontières, le fait qu'on est des êtres humains et qu'avant de savoir si on devient des dieux ou si on est des animaux, alors je suis d'accord que non, biologiquement, normalement, on est dans le règne animal, mais est-ce qu'on se fait plus la guerre ? Est-ce qu'on discute entre nous ?
C'est soit ça, soit un végétal ou un champignon. Moi, j'ai choisi.
Bon, il y a des belles fleurs aussi. Hein. Et donc le cosmopolitisme, c'est de s'interroger sur la nature de ce que nous sommes et des relations que nous avons avec les autres. Enfin bon, vous le lirez. Bon, c'est pas toujours hyper facile à lire, mais je pense que on comprend l'idée de base. Donc nous, on est confrontés. Je sais bien qu'il y a le véganisme, l'antispécisme. Moi, je travaille à l'INRA, Institut National de la Recherche Agronomique. C'est vrai que mon département s'appelle Physiologie Animale et Systèmes d'Élevage. Il existe parce que nous consommons de la viande des animaux. Entre parenthèses, il y a cet aspect-là des choses souvent qui est retenu uniquement, mais nous faisons des recherches aussi sur... ça a été évoqué au début, les services rendus par l'élevage. Il y a certaines opérations qui s'appellent des expertises scientifiques collectives. Il y en a une qui s'est terminée il y a un an ou deux, ça s'appelle une ESCO dans notre jargon, expertise scientifique collective. Elle s'intitulait « Les services rendus par l'élevage en Europe ». Donc, il y a les services de production, qui sont ce qu'on connaît et ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire les animaux, on les élève pour les tuer et les manger. Il y a des services environnementaux, c'est-à-dire les paysages, le tourisme, quels sont les services rendus dans nos régions en Europe par le fait qu'il y ait des animaux. Il y a des services culturels qui sont la gastronomie, la notion de race, enfin, ça on pourra parler de la notion de race animale, parce que moi, de mon point de vue, je trouve ça étonnant qu'on mette en avant les races quand on parle d'animaux et que ce soit aussi tabou chez les humains. Donc, moi, je pense que ça disparaîtra, les races animales, en raison des progrès de la génétique, etc. Et qu'on sera capable de les avoir un par un. Bon, c'est un peu confus ce que je raconte, mais, en tout cas, moi, je ne suis pas vegan, voilà ce que je peux dire. Je respecte l'idée... Je pense que j'arrive à imaginer l'idée que ce soit intolérable, que l'idée soit intolérable d'élever des animaux pour les tuer. Après, bon, c'est comment on négocie, comment on s'entend, comment la démocratie opère pour se mettre d'accord entre nous et que ce ne soit pas violent, quoi, qu'on ne dégénère pas dans la violence. Voilà.
Oui, non, moi je voulais, avant de passer à la SF, je voudrais sortir un petit peu de la distinction spéciste qu'on fait depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, ce débat de la place d'un groupe subordonné, et j'emploie pas le mot espèce à dessein, d'un groupe subordonné et de sa conscience et de sa sensibilité et de ce... il a déjà eu lieu en fait, hein, parce que quand on avait des esclaves, c'était les mêmes questions. C'était exactement les mêmes questions. C'était est-ce qu'ils sont sensibles? Est-ce qu'ils ont des droits? Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut les subordonner pour nous servir? Et il y avait des gens pour dire oh, mais non, c'est pas des êtres humains. Enfin, il y avait le même débat.
Sauf que là, en l'occurrence, c'est pas des êtres humains.
Non, c'est pas des êtres humains, effectivement. Mais du coup, on a décalé la distinction, c'est-à-dire que là où on avait utilisé un autre mot qu'espèce, on avait utilisé la race pour déterminer qui avait le droit d'être soumis à l'esclavage et qui, bon, c'était un petit peu quand même pas trop normal. Voilà, c'est là où on avait utilisé le mot race. Maintenant, on utilise la distinction animal-homme. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, il y a tout un tas de recherches. Donc, il y a des recherches qui vont tenter de prouver la non-conscience de l'animal. Et il y a d'autres recherches qui ont tendance à trouver des rites funéraires, trouver l'emploi d'outils, qui vont dire, chez telles espèces de mammifères marins, ils ont des prénoms. Voilà, ils s'appellent par leur prénom. Puis d'ailleurs, ils ont un langage par famille et il est complexe. Et puis, ils ont des rites funéraires aussi. Hein, voilà. Et donc, du coup, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué, parce que là aussi, on fait de l'anthropomorphisme scientifique. C'est-à-dire qu'on va rechercher nos comportements chez les sociétés animales. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont des comportements sociétals différents que c'est des comportements qui sont forcément inférieurs aux nôtres. Et ça ne diminue en rien leur capacité à avoir des interactions entre eux et à construire des choses entre eux et à avoir une sensibilité. On en est au stade où on considère, biochimiquement parlant, que les arbres ressentent la souffrance, puisqu'on est capable aussi de les mettre dans un état de stress. On parlait tout à l'heure du stress des bactéries, les végétaux, c'est pareil. Ils communiquent aussi. On sait que quand on intervient sur leur environnement, leur biochimie change. Et à partir du moment où leur biochimie change, c'est que, un, ils ont perçu le changement de leur environnement, et deux, ça va avoir une influence sur eux, leur développement.
Mais c'est pas pour ça que c'est du stress. Stress, c'est un mot humain.
Oui, tout à fait. Mais par contre, on va induire des changements biochimiques suite à la modification de l'environnement. Donc à partir de ce moment-là, parce que ça reste de la sensibilité. Voilà, c'est du sens, c'est du ressenti. Donc du coup, il va falloir se poser plein de questions, mais ces questions ne sont pas forcément en lien avec le spécisme, entre guillemets. Et je pense que c'est surtout une question de subordination et de hiérarchisation qui est notre façon de penser à nous, très humaines.
Moi, je m'inscris plutôt dans une réflexion sur l'avenir. Pendant très longtemps, on a considéré le monde comme nous appartenant. Tout ce qui n'était pas humain devait nous être subordonné. Il y avait un fonctionnement d'instrumentalisation de l'animal, de la nature. On en voit les conséquences. Andoris parlait de conscience. On se pose la question de la conscience de l'animal, mais il faut aussi se poser la question, nous, de notre conscience par rapport à notre responsabilité vis-à-vis des animaux et de la biodiversité telle qu'elle est atteinte aujourd'hui. Je sais plus, je disais il y a quelques jours qu'on est à 50 ou 60% 60% en moins de biodiversité sur la planète. Ça aura des conséquences sur la planète, ça aura aussi des conséquences sur nous, et il faut en prendre conscience.
Alors les 60% en question, c'est majoritairement les grands vertébrés terrestres. Mais par contre, si on se met à étudier au niveau des végétaux, au niveau des insectes, les insectes, ça tombe encore plus bas. C'est très inégal en fonction des continents. Et paradoxalement, les continents qui sont soi-disant les sanctuaires inviolés sont les plus touchés par cette extinction de masse. Mais là, tous les biologistes le disent et le constatent, on est dans la sixième extinction de masse. Il n'y a pas photo.
Et donc, il va vraiment, vraiment, vraiment falloir s'emparer de ces questions au niveau citoyen. Les animaux n'ayant pas la capacité à avoir une voix, ça va être à nous, peut-être, de manifester cette voix.
Est-ce qu'on peut imaginer que les animaux pourraient se liguer, sans nous le dire, pour nous éradiquer?
Alors, les virus pourraient le faire.
Non. Justement, l'ASF propose, par rapport aux animaux, j'ai l'impression, moi, deux futurs. On en parlait avec l'ICAM en préparant par mail la table ronde. Je disais qu'il n'y a pas d'animaux dans les récits cyberpunk où le capitalisme est roi, où, voilà, où la technologie... Il n'y a pas d'animaux. Dans Blade Runner, pour s'acheter un vrai animal, il faut être millionnaire. Quoi, voilà. Et l'autre tendance de la SF, quand on essaie d'aller dans un futur un peu éloigné, c'est plutôt des futurs où les animaux nous ont remplacés. C'est demain les chiens, où ce sont les chiens qui sont conscients, ou la planète des singes. Donc on tend vers quoi plutôt là ? On tend plutôt vers le cyberpunk, non ? Non ?
Alors là où en fait on pense souvent que la science-fiction va être prédictive, il nous arrive quand même bien souvent de nous tromper. Parce que par contre, dans les recherches cybernétiques actuellement, on imagine des animaux domestiques cybernétiques. Ça paraît complètement.
C'est ça dans Blade Runner, il y a des faux animaux,
oui,
en effet.
Ça paraît complètement absurde. Mais pour arriver à l'intelligence artificielle et à au robot humanoïde, on commence par l'animal comme on fait systématiquement pour plein de choses.
Oui, allez-y.
Alors, je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais rassurez-vous, les singes disparaîtront bien avant nous. Et c'est pour pas très longtemps, les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans, c'est vraiment la fin. Si vous voulez en voir, dépêchez-vous, ça ne va pas encore durer longtemps. Et si vous prenez une grande balance, et si vous mettez d'un côté l'ensemble des humains et des mammifères domestiques, les chiens, les chats, les vaches, les zébus, etc., domestiques, hein, et vous mettez en face les mammifères sauvages de la planète, les terrestres, je ne parle pas des aquatiques, vous avez en gros une balance qui fait 5% pour les mammifères sauvages terrestres et 95% pour les humains plus mammifères domestiques. Et là, on se bat pour les 5% qui restent, et certains trouvent que c'est toujours trop, parce que ça nous pose des problèmes. Ceci dit, nous, on est 1 milliard de plus tous les 13 ans, et tous ces milliards en plus, tous les 13 ans, il faut bien leur donner à manger, il faut bien les nourrir. Et donc, ce qui va survivre après nous, ce qui est sûr, et c'est là où il y a la diversité génétique, la grande, vraiment le plus grand potentiel, ce sont les bactéries et les virus, croyez-moi. Et ceux-là, ils sont là depuis très longtemps, ils sont encore là pour un certain temps, et si nous, on n'est plus là, ben, tant pis pour nous, mais la diversité, la masse génétique la plus grande, avec la plus grande possibilité d'évolution, ce sont les tout petits machins qu'on ne voit pas, qui nous rendent enrhumés de temps en temps, où on survit quelquefois moins bien, mais c'est là qu'est la grande diversité. Donc merci les bactéries, merci les virus, et on leur espère un beau futur, et d'éviter de refaire un truc comme nous, avec les conséquences que ça a pu apporter à la planète.
Oui, quand on étudie l'histoire des êtres vivants sur la planète, donc il y a eu 5 extinctions précédentes, et c'est systématiquement le sommet de la chaîne alimentaire qui trinque. Voilà. Ce n'est jamais le sommet de la chaîne alimentaire qui survit, c'est systématiquement le sommet de la chaîne alimentaire qui trinque. Donc c'est les plus grands, donc c'est les plus présents, donc c'est ceux qui se sont le plus développés et qui dominent tout. Voilà, systématiquement. Donc il faut bien partir du principe que cette sixième extinction qu'on est en train de vivre, là, effectivement, on est à 5% de vie sauvage face à nous, on est à 1 milliard supplémentaire. Quand on regarde la courbe de l'espèce humaine sur la planète, elle est terrifiante. Enfin, moi, personnellement, elle me terrifie. Là, on est une des rares espèces qui est en train de contempler sa propre extinction, puisque les précédentes, elles ne l'ont pas vu venir, parce qu'elles n'étaient pas trop responsables, alors que nous, oui. On a donc une capacité d'intelligence, de raisonnement, de réflexion normalement qui devrait nous permettre de faire face à ça et d'essayer de réfléchir pour éviter que ça se produise. Et voilà, je vais prendre une image, mais à la place on fait des selfies avec un iPhone. Quoi. Voilà, il y a un moment où il va falloir prendre conscience que c'est maintenant, on est dedans, c'est pas demain en fait, ça va pas se faire brutalement, on va pas prendre une météorite sur le coin de la figure comme les dinosaures, enfin peut-être, hein, mais on est déjà bien parti dans la pente sur laquelle on glisse. C'est le moment où il faut prendre les choses en main pour essayer de rétablir ce qui peut l'être. C'était déjà hier, en fait. Il faut le faire maintenant.
Et vous savez que les selfies, tous les ans, les selfies tuent plus de monde que les requins. N'oubliez jamais ça.
Et plus une espèce réussit, plus elle est sexy pour les virus et les bactéries.
Oui. J'avais envie de parler de cryptozoologie, mais on n'aura pas le temps. En revanche, je voudrais parler, j'ai lu le dernier roman de William Gibson, donc, qui se situe après ce qu'il appelle le jackpot et que nous, on appellerait l'effondrement maintenant, ce que les collapsologues appellent l'effondrement, dans lequel, évidemment, seuls les plus riches de la Terre ont survécu. Les animaux, on ne sait pas trop, il n'en dit pas trop, mais on trouve chez un londonien milliardaire des thylacines, qui sont des diables de Tasmanie, en fait, qui ont été...
Non, les... il y a le thylacine et le diable de Tasmanie, ce n'est pas le même. Le thylacine, c'était le loup de Tasmanie ou le tigre de Tasmanie.
Voilà, oui. Ouais. Donc des thylacines qui n'existent plus, mais qui ont été génétiquement recréées par dans un lointain futur, mais par des gens assez riches pour pouvoir le faire. Est-ce qu'on peut rêver à des Jurassic Park, à des animaux recréés
Venez à 7 heures... Derrière, il y a une conférence sur le sujet. Écoutez, il y a des questions sur arriver à refaire un mammouth. On a des mammouths congelés. Alors, vous savez, il y a les dessins dans la revue anglaise Punch, un peu satirique, où on voit des scientifiques qui dégagent dans le permafrost de Sibérie un mammouth. Ils grattent, et puis en bas, ils voient un truc, ils ont du mal à déchiffrer. Il y a écrit « Consommé de préférence avant 25 000 ans avant Jésus-Christ ». Ah bon, c'est une petite blague, j'avais trouvé ça rigolo. Mais à quoi ça sert de vouloir à tout prix refaire un mammouth alors qu'aujourd'hui on a les éléphants qu'on laisse disparaître? Commencez par sauver les éléphants qui sont là, à côté de nous. Qu'est-ce qu'on fera du mammouth quand on l'aura, si on jamais on réussit à le cloner?
Non, mais le pire, c'est qu'on va laisser mourir les éléphants et on va s'acharner après à recréer les éléphants.
Et c'est ça le paradoxe de la technique, c'est que... on arrive à dire, écoutez, c'est pas grave si ça disparaît, on saura le remplacer par autre chose. Et on est dans un schéma où c'est un peu comme la pollution. La pollution crée des emplois, c'est magnifique, on va créer des gens qui vont dépolluer. Mais est-ce que ça serait pas mieux pour tout le monde de pas polluer en amont? Et donc, on a toujours des causes et des conséquences, et de temps en temps, et c'est vrai que c'est plus compliqué d'aller attaquer la cause, parce que politiquement, socialement, économiquement, ça remet en cause beaucoup de choses. Mais quelque part, intellectuellement, éthiquement, moralement, prenez le mot que vous voulez, ça pourrait être plus sympa pour tout le monde d'agir sur la cause qu'on a identifiée, qu'on connaît bien, et du coup, la conséquence, elle disparaît avec. Mais se contenter de... voilà, la mer va monter, ben on va monter un peu les bâtiments, la glace va fondre, ben, je sais pas, on va inventer des congélateurs qui seront plus puissants.
On regardera Venise en photo.
Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire?
C'est la différence entre l'adaptation et la mitigation quand on parle de changement climatique. Soit on fait que s'adapter et on invente des stratégies d'adaptation, ou alors on évite que le changement climatique se fasse, ou au moins le moins possible. Quoi. Après, en ce qui concerne l'élevage, par exemple, c'est hétérogène dans les espèces animales, mais c'est hétérogène au niveau des pays et des continents sur les problématiques qui se posent. On a quand même des problématiques très occidentales. Enfin, si on va en Afrique ou dans d'autres pays, ils n'ont pas tout à fait les mêmes discussions que nous. Alors, ça aussi, c'est important de s'interroger sur les modèles d'élevage, etc. Et c'est ce qu'on fait, nous, dans notre... Ça, c'est une vision assez française qu'on défend. C'est l'idée de créer de la connaissance pour que les gens puissent être autonomes en termes d'élevage chez eux, de production agricole, dont animale, tant qu'elles seront autorisées, plutôt qu'une autre stratégie qui serait de maximiser la production dans nos contrées parce qu'on a des richesses, etc., pour ensuite exporter et gagner de l'argent. Donc, il y a aussi des dimensions qui sont très politiques, dont, avec des conséquences qui sont différentes pour les animaux qui sont concernés quand on parle d'élevage, par exemple.
On a le temps peut-être pour une question dans le public. Oui, ah oui, ouh, très rapide. Allez-y. Non ? Ah, il y a un micro qui arrive.
En fait, je voulais vous dire une question. En fait, c'est au sujet d'un... C'est au sujet d'un film de 1982, un film d'animation, en fait, qui s'appelle Brisby, secret de Nîmes, en fait, où j'ai entendu parler, en fait, l'exemple de rats génétiquement modifiés par des savants. Je crois que c'est un centre qui s'appelle National Institute of Mental Health. Je crois qu'en fait, des rats génétiquement modifiés, en fait, ils sont devenus intelligents comme des humains, en fait. C'est une question que je me pose, si les animaux, en fait, deviennent intelligents comme nous, en fait, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence, en fait, si des animaux, par exemple, comme les rats, en fait, s'ils deviennent intelligents comme des humains, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence?
Ils vont nous manger.
Ils vont nous faire disparaître, ensuite, ils vont nous recréer comme les mammouths.
Ah, super. Non, mais techniquement, rien, il n'y a pas un type d'intelligence. On est en train de l'accepter pour l'espèce humaine. Ce serait bien qu'on étende cette acceptation au reste du monde vivant. Il n'y a pas un type d'intelligence. Donc, il n'y a aucune preuve, et il y a même plutôt des preuves inverses, que les animaux n'ont pas déjà une forme d'intelligence, parfois plus développée que la nôtre. Donc, du coup, cette idée de intelligent comme nous, oui, c'est-à-dire, en fait, s'ils deviennent agressifs, méchants, égocentrés, ce genre de choses. On est mal, effectivement.
Et on a déjà plusieurs preuves que certains animaux ont des capacités plus développées que les nôtres. Par exemple, les dauphins communiquent sous forme d'images grâce au sonar. Les singes, on sait qu'ils sont plus rapides pour reconnaître des formes visuelles que nous. Donc, à terme, ils pourraient peut-être avoir des emplois où la rapidité de reconnaissance visuelle. Bon, ils sont peut-être pas assez disciplinés.
C'est des CDD ou des CDI.
Ah non, mais
il y aura un débat pour savoir si on les paye.
En ubérisation.
En monnaie de singe.
Enfin, il y a vraiment des formes d'intelligence qui dépassent la nôtre sur certains éléments.
Une dernière question, allez-y.
En fait, moi, je me posais une question, c'était par rapport à la médecine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles techniques médicales ou tous les nouveaux médicaments qu'on utilise, ils sont au préalable testés sur les animaux. Je voulais savoir si un progrès médical est possible, comme le progrès actuel. Bon, qui, voilà. Est-ce qu'il est quand même possible si on n'utilise pas les animaux pour les tests avant?
Alors oui, donc je peux en parler parce que je viens de la pharmacie. On travaille de plus en plus sur la culture de cellules. Alors ça marche pour certains tests, ça marche pas sur tous les tests, mais il y a vraiment une réflexion autour de ces questions pour prendre en compte effectivement la sensibilité animale.
Ça va poser. La directive de référence date de 2010, impliquée en France en 2013. Et dans les premiers termes de la directive européenne, il est bien écrit qu'à terme, le but est de pouvoir s'en passer complètement. Mais aujourd'hui, on ne sait pas encore le faire. Et les 3R vont dans ce sens-là. J'avoue, à la fin de la réunion, que je fais partie du comité d'éthique de l'INSERM. Je travaille spécifiquement sur les questions de l'animal dans la recherche. Mais je l'ai dit juste maintenant parce qu'on n'a plus le temps de poser des questions.
Il en reste une, quand même. Une... très vite, allez-y.
Je voulais juste poser une petite question par rapport au début du débat. Sur le véganisme notamment et tous ces sujets-là. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'on considère l'animal comme une altérité, tout simplement? C'est ce qu'on a fait avec les esclaves, les zoos humains, etc. C'était pareil. Et là, on fait la même chose avec l'animal. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas juste dans l'habituation à l'autre, tout simplement?
Parce que c'est plus facile de considérer l'altérité avec l'animal à partir du moment où les systèmes de prédation existent à l'extérieur de nous, en fait, à l'extérieur de l'espèce humaine. Il y a d'autres animaux qui mangent des animaux, donc c'est plus facile de se dire bah, pourquoi eux et pas moi. D'accord? C'est, la réflexion, elle va être... voilà, c'est pour ça que ça devient compliqué. C'est parce que la réflexion, il va falloir qu'on l'ait, nous, en tant qu'espèce qui prend conscience de l'impact qu'a sa consommation de viande sur le reste de la planète, sur l'animal, etc. Alors que bah, le renard, il ne se pose pas la question, parce que de toute façon, à un moment, il faut manger. Et puis, bah, il n'est pas tout seul, d'ailleurs. Hein. On a des carnivores stricts qui, eux, bah, de toute façon, si on leur interdit de manger de la viande, bah, ils vont disparaître. Bon, on dira que c'est déjà ce qu'ils font. Les grands carnivores étant parmi les premiers touchés sur la planète. Mais c'est pour ça que c'est plus complexe que l'esclavage dont on parlait tout à l'heure, de remettre en question cette relation de mangeur-mangé, tout simplement parce que bah, y en a partout autour de nous, en fait. Et que...
Mais quand même, moi, j'ai un peu de mal à faire le parallèle entre... La controverse de Valladolid là, sur l'esclavage, par exemple, que j'ai vu. Et puis un animal, un esclave, c'est quand même un être humain.
Sauf qu'à l'époque, ils étaient considérés comme des animaux.
Non, mais d'accord. Mais moi, pour l'instant, je ne sais pas, je suis peut-être un peu arriéré, mais je n'arrive pas à faire le parallèle entre la controverse sur l'esclavage et le statut des animaux dans nos sociétés. Je trouve que ce n'est pas au même niveau.
Ça a posé les mêmes questions, mais au contraire, ce n'est pas du tout être arriéré, c'est montrer que la conscience humaine a déjà progressé sur le sujet, du merci, et que donc on n'est plus à ce niveau-là. Mais à l'époque, la question se posait vraiment.
Et si on va vraiment à l'extrême, il y a eu des époques à certains endroits où on mangeait des hommes.
Et c'était bon, d'ailleurs, hein, faut le dire.
Surtout les femmes.
Alors, je tiens à dire qu'il paraît qu'on n'est pas très bon, en fait, parce que les requins, ils goûtent et ils recrachent. Hein, la plupart du temps, ils ne trouvent pas ça terrible.
Sur ces belles paroles, merci beaucoup aux intervenants. Merci à vous.